savoir qui se reconnaît comme provisoire, contextualisé, susceptible toujours de remettre en cause. Notre ambition est dans notre modestie même. Il s'agit de remettre en cause l'idée d'un savoir désincarné, comme situé hors de l'action, hors de l'espace, hors du temps, pour bâtir la connaissance toujours prise dans l'action. Cette hypothèse concerne la démarche scientifique, mais aussi la mise sur pied des mécanismes de gouvernance. Et je voulais en donner trois exemples qui se rattachent aux différents champs où j'ai travaillé et dans lesquels la réponse est pour moi en tout cas une seule et même chose dans lesquels j'ai vécu. Le premier champ est celui de la pauvreté extrême, que cela soit chez nous ou dans les pays en développement. Depuis mes premières rencontres avec Athédée Carmonde, représentée ici par Georges Kerto, jusqu'à présent, dans mes fonctions de rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, ma conviction n'a cessé de se renforcer. On ne peut travailler pour les pauvres qu'avec les pauvres. Armé de ces statistiques et de ces modèles, l'économiste peut bien, sans doute, proposer un diagnostic de la pauvreté. Le psychologue peut proposer des protocoles sur la manière dont les plus pauvres internalisent leur situation et finissent par se réunir. Les sociologues mettent en avant les mécanismes sociaux qui contribuent à la perpétuer ces pauvres. Et les juristes, enfin, prônent les réformes qui en favorisent l'abolition. Mais j'en suis convaincu, il n'y a pas d'expert qualifié sur sa propre situation que le pauvre lui-même. Lui sait, dans la situation propre et la sienne, que les obstacles de rencontre peuvent être levés à condition de parier sur les solutions qu'il a inventées et dont il sait qu'elles marchent. Compte tenu de l'importance du savoir local, contextuel, de la situation de grande pauvreté, le rôle du chercheur ne peut plus être de substituer son point de vue à celui de victime. Il doit être, pour parler en termes cliniques, de favoriser une auto-analyse et une auto-médication. Notre tradition occidentale a mis l'accent sur la science comme moyen de connaître et de maîtriser le monde. Elle doit aujourd'hui s'enrichir d'une nouvelle capacité, une capacité pour le soi de se connaître et de s'interroger. Le deuxième exemple de cette nouvelle conception du savoir qu'appelle la réalité d'un monde dynamique et incertain est celui de l'agroécologie, à la promotion de laquelle j'ai consacré des efforts au cours des derniers mois, stimulés par mon collaborateur Gaëtan Valdecorolle et par le travail de Philippe Barret, qui sont présents ici. Et je sais que le recteur de Delvaux s'intéresse beaucoup à ces questions de l'agroécologie. Qu'est-elle? Elle est au croisement, cette science, des sciences agronomiques et de l'écologie. Elle est à la base d'un ensemble de techniques de production agricole qui vise à l'utilisation plus efficiente des ressources, de manière à mieux intégrer l'agriculture à cet écosystème et à réduire l'empreinte écologique de la production agricole. Elle consiste, pour le paysan, à chercher à imiter la nature dans son champ. Elle mise sur les complémentarités entre différentes plantes et différents animaux. Elle reconnaît la complexité inhérente au système naturel. Elle récompense l'intelligence et l'inventivité, là où l'agriculture industrielle conventionnelle prétend décomposer la nature en ses éléments et simplifier, quitte à la rendre monotone, la tâche de l'agriculteur. Mais il y a davantage. Si elle est peu intensive en nutriments, l'agroécologie est intensive en connaissances. Elle laisse rouler à l'agriculture conventionnelle ce que l'économie de la connaissance est à l'économie industrielle. Elle suppose donc des transferts de connaissances, de savoir. Elle repose sur des échanges entre paysans et érige les paysans en experts. Au lieu que la bonne pratique et les laboratoires, elle a sa source dans ces lieux d'expérimentation que sont les champs de l'outil. Et en cela, l'agroécologie est source d'émancipation pour les paysans, de receveurs de conseils, elle les érige en co-acteurs. Et elle équilibre les rapports entre les détenteurs du savoir et ses utilisateurs, les paysans se trouvent des deux côtés à la fois. Enfin, troisième exemple,